Chapitre 8. L'armée industrielle de Kelly. J'eus autrefois la bonne fortune de voyager durant plusieurs semaines en compagnie d'une horde de 2000 vagabonds, connus sous le nom d'armée industrielle de Kelly. À travers l'ouest sauvage et brumeux, venant directement de Californie, le général Kelly et ses héros avaient toujours réussi à capturer des trains, mais ils échouèrent en traversant le Missouri pour gagner l'est stérile. La compagnie de l'Est n'avait pas la moindre intention de transporter gratuitement 2000 hobos. En désespoir de cause, l'armée de Kelly stationna quelque temps à Council Bluffs, et le jour où je la rejoignis, exaspérée par l'attente, elle se remettait en marche pour prendre un train d'assaut. Quel imposant spectacle! Le général Kelly montait un superbe cheval de bataille noire, et bannière déployée à la musique martiale des fifres et des tambours, compagnie, partagée en deux divisions, les 2000 vagabonds défilaient devant lui sur la route carrossable qui conduisait au petit village de Weston, à une dizaine de kilomètres de là. Étant la dernière recrue, je fus incorporé dans la dernière compagnie du dernier régiment de la seconde division, et de plus, dans le dernier rang de l'arrière-garde. L'armée campa à Weston, à proximité de deux lignes de chemin de fer, celle de Chicago-Milwaukee-Saint-Paul et celle de Rock Island. Notre but était de prendre le premier train sortant de la gare, mais les employés du chemin de fer déjouèrent nos plans. Il n'y eut pas de premier train. Les deux voies demeurèrent inutilisées. Aucun convoi ne passa. Pendant ce temps, tandis que nous installions notre campement à proximité des lignes abandonnées, les braves bourgeois d'Omaha et de Council Bluffs se démenaient à l'envi. Ils cherchaient à pousser la populace à s'emparer d'un train en gare de Council Bluffs pour l'amener vers nous et le mettre à notre disposition. Mais les employés du chemin de fer devancèrent la foule. Le lendemain de bonne heure, une locomotive, suivie d'une seule voiture, arriva en gare et bifurqua sur une voie de garage. À ce premier signe de vie sur les rails, l'armée entière se rangea le long de la voie. L'activité reprit instantanément sur les deux lignes à la fois. De l'ouest, on entendit le sifflet strident et prolongé d'une locomotive qui venait vers nous. Tout le monde s'apprêtait à monter. Le train, avec un bruit de tonnerre, nous fila devant le nez à une allure foudroyante. Le vagabond n'était pas encore né qui aurait pu le prendre en marche. Une deuxième locomotive siffla et un autre train traversa la gare à toute vitesse, puis une autre et ainsi de suite, sans discontinuer pendant des heures. Vers la fin, les convois étaient composés de voitures de passagers, de fourgons, de trucks, de vieilles locomotives réformées, de wagons postaux, de machines de secours et de tout le bric-à-brac de matériel roulant qui s'accumule dans les chantiers des grandes gares. Lorsque le chantier de Council Bluffs eut été complètement vide, la voiture et la locomotive partirent vers l'est et les voies furent de nouveau abandonnées. La journée se passa, puis la suivante, sans événement. Pendant ce temps, accablé par la pluie, la grêle, le vent, les 2000 vagabonds se morfondaient près de la voie. Mais cette nuit-là, la brave population de Council joua un tour pendable aux employés du chemin de fer. Une foule immense rassemblée à Council Bluffs traversa le fleuve sur le pont d'Omaha et se joignit à une autre bande pour opérer une rafle sur les chantiers de l'Union Pacific. D'abord, les gens s'emparèrent d'une locomotive, puis d'un train entier. Ils s'entassèrent dans les wagons pour repasser le Missouri et, par la ligne de Rock Island, venir nous remettre le convoi. Les employés essayèrent bien de faire échouer l'entreprise, mais ils n'y réussirent pas, pour la plus grande frousse de l'ingénieur en chef de Weston et de l'un de ses subalternes. Ces deux individus, en exécution d'ordres secrets reçus par télégramme, tentèrent de faire dérailler notre train de secours en enlevant les rails. Rendus méfiants, nous avions envoyé des patrouilles en reconnaissance sur les voies. Pris en flagrant délit de sabotage, l'ingénieur et son aide furent bientôt entourés par 2000 vagabonds furieux, prêts à les lyncher, et ne durent leur vie sauve qu'à la brusque arrivée du train. Nous n'étions pas au bout de nos peines. Dans leur hâte, les habitants n'avaient point songé à former un train suffisamment long. Il n'y avait pas de place pour y loger 2000 hommes. Aussi, la foule et les vagabonds, après avoir fraternisé, bavardé et chanté ensemble, durent se séparer. Les gens de Council Bluffs remontèrent sur leur train capturé pour retourner à Omaha, et le lendemain matin, les vagabonds se mirent en route pour effectuer à pied la distance de 210 kilomètres qui les séparait de Des Moines. À partir de ce moment, l'armée de Kelly ne remonta plus en chemin de fer. Les compagnies savent ce qu'il leur en a coûté. Mais elles agissaient par principe, et en fin de compte, elles gagnèrent à ce jeu. Underwood, Leola, Menden, Avocat, Walnut, Marno, Atlantique, Wyoto, Anita, Adair, Adam, Casey, Stewart, Dexter, Carlam, DeSoto, Van Meter, Bonneville, Commerce, Valley Junction, Les noms de toutes ces villes me reviennent en mémoire, tandis que je consulte la carte pour retracer notre itinéraire à travers les grasses campagnes d'Iowa. Et les fermiers hospitaliers d'Iowa. Ils venaient au-devant de nous avec des carrioles et emmenaient nos paquets. Ils nous offraient des repas chauds à midi, au bord de la route. Des maires de confortables petites villes prononçaient des discours de bienvenue et à l'heure du départ nous souhaitaient bon voyage. Des députations de jeunes filles étaient envoyées à notre rencontre. Les bons citoyens sortaient par centaines de leurs maisons et marchaient en notre compagnie, bras dessus, bras dessous, dans les rues principales. Tout le monde était en liesse lorsque nous entrions dans les villes et chaque jour la fête recommençait car les villes étaient nombreuses et rapprochées. Le soir, nos campements étaient envahis par les populations entières. Chaque compagnie dressait son feu de campement et l'on s'amusait ferme autour de chaque foyer. Les cuisiniers de ma compagnie, la compagnie L, des artistes du chant et de la danse, contribuaient énormément à notre succès. Dans un autre coin du camp, on écoutait la chorale du club de l'Allégresse. Une de ses étoiles était le dentiste, fourni par la compagnie L, et nous en étions très fiers. Toutes les mâchoires de l'armée avaient passé par ses pinces. Et comme les extractions avaient lieu généralement à l'heure des repas, nos digestions étaient stimulées par de nombreux incidents comiques. Le dentiste ne disposait pas d'anesthésique, mais deux ou trois d'entre nous étions toujours prêts à tenir solidement le patient. En plus des réjouissances des compagnies et du club de l'Allégresse, nous assistions habituellement aux services religieux. Des pasteurs locaux officiaient et des sermons étaient suivis d'une grande abondance de discours politiques. On eût dit une vraie foire battant son plein. On peut tirer beaucoup de talent de 2000 vagabonds. Je me souviens que nous avions une fameuse équipe de baseball qui se mesurait le dimanche avec l'équipe locale. Souvent, nous la battions, deux fois de suite. L'année dernière, lors d'une tournée de conférences, il m'arriva de passer à Des Moines dans un pullman. Pas un pullman à glissière, mais un véritable wagon de luxe. Aux abords de la ville, je revis la vieille forge et mon cœur se mit à bondir. C'est là, dans cette même forge que 12 ans plus tôt, les hommes de Kelly avaient campé et juré solennellement que, leurs pieds étant meurtris, ils ne marcheraient plus. Nous avions pris possession de la forge et fait savoir aux habitants de Des Moines que si nous étions entrés à pied dans leur ville, nous ne voulions pas en sortir de la même manière. Des Moines est une cité hospitalière, mais cette fois, nous étions vraiment trop exigeants. Faites ce petit calcul mental, amis lecteurs. 2000 vagabonds mangeant 3 substantiels repas, cela fait 6000 repas par jour, 42 000 par semaine et 168 000 pour le mois le plus court du calendrier. Cela dépassait les bornes. Nous n'avions pas un sou vaillant. À la population de se débrouiller pour nous ravitailler. La ville était affolée. Nous flânions dans le camp, nous discutions politique, nous donnions des concerts religieux, nous arrachions des dents, jouions au baseball et engloutissions nos 6000 repas par jour aux frais de Des Moines. La municipalité supplia la compagnie de chemin de fer de lui venir en aide, mais celle-ci demeura inexorable. Elle avait décrété qu'elle ne nous prêterait pas de train, c'était son dernier mot. Elle ne voulait sous aucun prétexte créer un précédent. Cependant, nous continuions à manger. La situation devenait terriblement critique. Nous voulions aller à Washington, et Des Moines seraient tenus d'ouvrir un emprunt pour payer nos billets, même à un tarif spécial, et si nous séjournions plus longtemps, de recourir à un autre emprunt pour nous nourrir. Alors, un homme de génie trancha la difficulté. Nous refusions de partir à pied. Fort bien. Nous irions en bateau. De Des Moines à Keokuk, sur le Mississippi, coule le fleuve de Des Moines, sur une longueur de 500 km. Munis d'une bonne cargaison flottante, nous pouvions naviguer, affirmait le génie local, et poursuivre notre route sur le Mississippi jusqu'à l'Ohio, et gagner Washington après un court portage par-dessus les montagnes. La ville de Des Moines ouvrit une souscription. De généreux citoyens y participèrent pour plusieurs milliers de dollars. Du bois, des cordages, des clous, et toutes les toupes pour calfater furent achetées en quantité considérable. Et sur les rives du fleuve Des Moines, on inaugura un formidable chantier de construction navale. Or, le fleuve Des Moines est un méchant cours d'eau, indûment élevé à la dignité de fleuve. Dans notre immense pays de l'Ouest, on appellerait ça un ruisselet. Les plus anciens habitants branlaient la tête en déclarant que jamais nous ne pourrions naviguer sur ce fleuve, qu'il n'y avait pas assez d'eau pour nous porter. Les autorités de Des Moines n'en avaient cure. L'essentiel était de se débarrasser de nous. Et nous étions nous-mêmes des optimistes si gras et si prospères que nous ne nous en soucions pas davantage. un mercredi, le 9 mai 1894, nous nous mîmes en route pour notre colossale partie de plaisir. En somme, la ville de Des Moines s'en était aisément tirée. Elle doit une statue de bronze au citoyen de génie qui l'a sortie de cette impasse. Il est vrai qu'elle dut payer nos bateaux. Nous avions absorbé 66 000 repas à la forge et pris avec nous 12 000 repas supplémentaires pour notre ravitaillement, en prévision de la famine dans les régions désertiques. Mais songez que nous aurions pu rester 11 mois à Des Moines au lieu de 11 jours. Avant de partir, nous jurâmes de revenir si le fleuve refusait de nous porter. C'était une excellente idée d'emmener avec nous 12 000 repas, du moins selon l'avis des débrouillards du bateau ravitailleur, car rapidement celui-ci s'égara et nous ne le revîmes plus. La formation par compagnie fut complètement disloquée dès le début du voyage. Dans toutes les agglomérations d'hommes, on trouve un certain pourcentage de tirs au flanc, d'incapables, de gens ordinaires et de malins. Nous étions 10 as dans notre bateau, la crème de la compagnie L. Je faisais partie de cette escouade pour deux raisons. D'abord, il n'y avait pas plus habile que moi pour trouver des vivres. Et ensuite, n'étais-je pas Jack le matelot ? Je connaissais les bateaux et la navigation. Sans nous préoccuper des 40 camarades de la compagnie L, nous décidâmes, dès que nos provisions vinrent à manquer, de nous en procurer par nos propres moyens. Nous descendîmes donc le fleuve tout seul, récoltant ça et là de quoi manger, dépassant tous les bateaux de la flotte et, hélas, je dois l'avouer, nous emparant parfois des provisions que les fermiers tenaient à la disposition de l'armée. Pendant une grande partie de ce voyage de 500 km, nous fûmes en avance d'une demi-journée ou d'un jour entier sur le gros de l'armée. Ayant réussi à nous procurer quelques drapeaux américains, dès que nous approchions d'une petite ville ou que nous apercevions un groupe de paysans sur la rive, nous hissions nos pavillons. Nous nous présentions comme les fourriers et demandions à voir les vivres recueillis pour l'armée de Kelly. Illico, on nous les remettait. Il n'y avait rien de mesquin dans notre façon d'agir. Jamais nous n'enlèvions plus que nous ne pouvions porter. Mais nous raflions le meilleur. Par exemple, si quelques fermiers philanthropes avaient fait un don de tabac d'une valeur de plusieurs dollars, nous enlevions le tout, de même sucre, le beurre, le café et les conserves. Mais si l'on nous offrait des sacs de haricots et de farine, ou 2-3 veaux tués, résolument, nous nous abstenions et continuions notre route. Non sans avoir laissé des ordres de délivrer ces denrées au bateau de l'intendance qui devait nous suivre. Dieu, que nous vivions grassement dans cette contrée d'abondance. En vain le général Kelly essaya-t-il de nous dépasser. Il envoya 2 rameurs dans une légère barque à coque ronde pour nous rattraper et mettre un terme à nos pirateries. Ils nous rejoignirent, en effet, mais ils étaient 2 contre 10. Ils nous déclarèrent que le général leur avait ordonné de nous faire prisonniers. Devant notre refus de nous laisser emmener, ils filèrent jusqu'à la ville suivante pour réclamer l'aide des autorités. Aussitôt, nous descendîmes à terre et fîmes cuire un léger souper et protégés par l'obscurité. Nous dépassâmes la ville et sa police. J'ai tenu un journal de cette partie du voyage. Et en le relisant maintenant, je retrouve une expression qui revenait sans cesse sous mon crayon. Nourriture excellente. Certes, nous faisions bonne chère. Nous dédaignions même de préparer notre café avec de l'eau bouillie. Nous employions du lait pur et, si j'ai bonne mémoire, nous avions baptisé ce merveilleux breuvage du nom de Vienne pâle. Tandis que nous courions en avant, écumant le meilleur des produits de ce pays, et que l'intendance était perdue, le gros de l'armée mourait de faim. J'avoue que cet état de choses était pénible pour les camarades, mais que voulez-vous ? Nous étions tous les 10 des individualistes, pleins d'initiative et de témérité. Nous croyions dur comme fer que la nourriture appartenait aux premiers arrivants, et la Vienne pâle aux forts. Une fois l'armée se passa de manger pendant 48 heures, puis elle arriva dans un petit village d'environ 300 habitants à Red Rock. Cette localité, comme toutes celles que traversait l'armée, avait nommé un comité de défense. En comptant 5 membres par famille, le village de Red Rock comprenait 60 habitations. Son comité de défense fut terrorisé par l'irruption de 2000 vagabonds affamés qui alignèrent leurs bateaux sur 2 ou 3 rangs le long de la rive. Le général Kelly était un brave homme. Il n'avait nullement l'intention de pressurer les paysans. Il ne s'attendait pas à ce que ces 60 familles lui fournissent 2000 repas. En outre, l'armée possédait son trésor de guerre. Mais le comité de défense de Red Rock perdit la tête. « Pas d'encouragement à l'envahisseur !» Tel était le mot d'ordre. Lorsque le général se présenta pour acheter des vivres, le comité refusa net de lui en vendre. Il ne possédait rien et n'avait que faire de l'argent du général Kelly. Alors celui-ci employa les grands moyens. Il fit sonner le clairon. L'armée quitta les bateaux et, au haut de la rive, se forma en rang de bataille, devant le comité qui contemplait ce spectacle. La harangue du général fut brève. « Mes petits, dit-il, depuis quand n'avez-vous pas mangé ?»«
Depuis avant-hier. »«
Avez-vous faim ?» Un cri d'affirmation sortant de 2000 gosiers ébranla l'atmosphère. Puis le général se tourna vers le comité de Red Rock. « Messieurs, comprenez bien la situation. Mes gars n'ont rien dans le ventre depuis 48 heures. Si je les lâche dans votre ville, je ne réponds pas des conséquences. Ils sont à bout de patience. Je me proposais de leur acheter de la nourriture, mais vous avez refusé de m'en vendre. Ce n'est plus une prière que je vous adresse, mais un ordre. Je vous donne 5 minutes pour réfléchir. Ou bien vous abattrez 6 bouvillons et me livrerez 4000 rations. Ou je lâche mes hommes. Vous avez 5 minutes, messieurs. » Des membres du comité, terrifiés, regardèrent les 2000 vagabonds affamés et se rendirent sans plus attendre. Ils n'allaient pas risquer le pire. On tua les 6 jeunes bœufs et la distribution des rations commença aussitôt. L'armée put dîner ce soir-là. En attendant, les 10 individualistes forcenés conservaient leur avance et ramassaient tout ce qui se ferait de bon à leur vue. Mais le général Kelly déjoua notre ruse. Il dépêcha des cavaliers le long de chaque berge pour mettre en garde les fermiers et les citadins contre notre arrivée. Cette mission fut admirablement remplie. Les fermiers, jusqu'ici très hospitaliers, nous firent un accueil glacial. De plus, lorsque nous nous attardions près de la rive, ils donnaient des ordres aux constables de lancer leurs chiens à nos trousses. J'en sais quelque chose. Un jour, je fus surpris par 2 de ces molosses devant une barrière de fil barbelé qui me séparait du fleuve. Je portais 2 seaux de lait pour préparer la vienne pâle. Je n'endommageais pas la clôture, mais nous dûmes boire du café plébéien préparé avec de l'eau vulgaire. Et il me resta à mendigoter un nouveau pantalon. Essayez donc, aimable lecteur, d'escalader une telle barrière avec un seau de lait dans chaque main. Depuis ce jour, j'ai conservé un parti pris contre le fil de fer barbelé. Et je pourrais vous fournir des renseignements édifiants sur ce sujet. Incapable de satisfaire notre appétit tant que le général Kelly enverrait ses 2 cavaliers en reconnaissance devant nous, nous rejoignîmes l'armée et fomentâmes une véritable mutinerie. C'était une affaire sans importance. Néanmoins, elle désorganisa la compagnie L de la 2e division. Le capitaine refusa de nous réintégrer dans sa compagnie, nous traita de déserteurs, de traîtres, de faux frères, et lorsqu'il eut reçu de l'intendance des rations pour la compagnie L, il défendit qu'on nous donnât désormais notre part. Décidément, ce capitaine ne savait pas apprécier la valeur de ses hommes. Nous ne tardâmes pas à intriguer auprès du premier lieutenant. Cet officier se joignit à nous avec les 10 hommes de son bateau. En retour, nous lui conférâmes le grade de capitaine de la compagnie M. Le capitaine de la compagnie L poussa les hauts cris. Le général Kelly, le colonel Speed et le colonel Baker tombèrent sur nous. Mais notre petite compagnie de 20 hommes tint bon et finalement, nous eûmes gain de cause. Désormais, nous nous passions de l'intendance. Nos débrouillards soutiraient leurs meilleures rations aux villageois. Cependant, nous n'inspirions guère confiance à notre nouveau chef. Lorsqu'il nous regardait partir, il n'était jamais sûr de nous revoir. Il appela donc un forgeron pour consolider son autorité. Celui-ci fixa 2 gros anneaux de fer à la poupe de notre bateau et 2 crochets correspondant à la proue du sien. Les 2 bateaux furent amenés bout à bout. Les crochets tombèrent dans les anneaux et nous fûmes bel et bien amarrés. Impossible désormais de perdre notre capitaine. Mais rien ne pouvait réprimer notre esprit inventif. Avec nos liens mêmes, nous réussîmes à imaginer un stratagème qui nous permit de dépasser tous les bateaux de la flotte. Ainsi que toutes les grandes découvertes. La nôtre était due au hasard. La première fois que nous abordâmes un tronc d'arbre dans un petit rapide, le bateau de tête fut accroché et retenu comme par une ancre, et le bateau de queue tournoya dans le courant, faisant pivoter le bateau de tête sur le tronc en dérive. J'étais au gouvernail du bateau de queue. Vainement, nous essayâmes de pousser en avant. Alors j'ordonnai aux hommes du bateau de tête de venir dans le bateau de queue. Aussitôt, le premier bateau se dégagea et les hommes y retournèrent. Après cette expérience, troncs d'arbres, récifs, au fond et bancs de sable ne nous causèrent plus aucune terreur. Dès que le bateau d'avant heurtait un obstacle, les 10 hommes sautaient dans le bateau de queue. Dès que le premier bateau se dégageait, le bateau de queue se trouvait coincé à son tour. Comme des automates, les 20 hommes sautaient dans le bateau de tête et le bateau de queue passait. Les bateaux de l'armée se ressemblaient tous, fabriqués en série. Ils étaient plats et de forme rectangulaire, mesurant 6 pieds de large, 10 pieds de long et 1,5 pied de profondeur. Lorsque je me trouvais au gouvernail de mes deux bateaux accrochés ensemble, j'étais à la poupe d'une embarcation de 20 pieds de long, chargée de couvertures, d'ustensiles de cuisine et de notre magasin de vivres, contenant en outre 20 robustes vagabonds qui se relayaient sans relâche aux rames et aux avirons. Nous ne pouvions demeurer tranquilles, et nous causâmes encore des ennuis au général Kelly. Il avait rappelé ses cavaliers et leur avait confié 3 bateaux de police, qui marchaient de front et ne permettaient à aucun autre de les devancer. La double barque contenant la compagnie M serrait de près les côtres des policiers. Nous les aurions aisément dépassés, mais c'eût été violer le règlement. Nous nous tenions donc à une distance respectueuse dans l'attente des événements. Nous savions que plus loin s'étendait une riche campagne, non encore exploitée par les vagabonds. Un bouillonnement sur l'eau, voilà tout ce que nous souhaitions. Quand nous contournions un coude du fleuve et que nous apercevions un remous à distance, nous pressentions ce qui allait se passer. Bing ! Le cotre numéro 1 se jetait contre un récif et restait en panne. Boum ! Le numéro 2 l'imitait. Bang ! Le numéro 3 rencontrait le même sort. Naturellement, notre premier bateau allait se heurter sur l'obstacle, mais... 1, 2, les hommes du bateau d'avant sautaient dans celui de l'arrière, 1, 2, ils regagnaient celui de l'avant, 1, 2, les hommes du bateau de queue y revenaient et nous continuions notre route.
Hé, hey, là-bas, halte là ! Criaient les policiers.
Comment faire ? C'était la faute de ce sacré torrent et nous feignions de gémir tout en filant, soulevés par le courant impitoyable qui nous emportait hors de vue, jusque dans la campagne généreuse où nous ramasserions de quoi emplir notre magasin de vivres. De nouveau, nous buvions de la vienne pâle et nous soutenions mordicus que la nourriture appartenait au premier arrivant. Pauvre général Kelly. Il inaugura une nouvelle tactique. La flotte entière partit en tête, la compagnie M de la 2e division reprenant sa vraie place dans le rang, c'est-à-dire la dernière. Dès le second jour, nous avions brouillé les cartes. Devant nous s'allongeaient 40 km de rapide, au fond, bancs de sable et récifs. À propos de cette partie de notre voyage, les vieilles gens de Des Moines avaient hoché la tête. Près de 200 embarcations déjà engagées avant nous dans le courant s'étaient entassées de la façon la plus inextricable. Nous nous frayâmes un chemin dans cette flottille échouée aussi facilement qu'une salamandre passe à travers le feu. On ne pouvait éviter les rochers, les bancs de sable et les troncs d'arbres. Nous les franchîmes. 1-2, 1-2, bateau de tête, bateau de queue, bateau de queue, bateau de tête, tout le monde en arrière, tous en avant et encore en arrière. Cette nuit-là, nous campâmes seuls et le jour suivant, nous flânâmes dans notre camp tandis que les autres s'occupaient à réparer les avaries de leur bateau. Impossible de mettre un frein à notre ingéniosité. Nous gréâmes un mât, hissâmes la voile, en l'espèce des couvertures. Ce qui nous permit d'accomplir en un rien de temps le trajet, alors que l'armée s'échinait pour nous rattraper. Le général Kelly, voulant avoir l'œil sur nous, eut recours à la diplomatie. Aucun bateau ne pouvait nous suivre. Nous étions sans conteste les plus fortes têtes qui eussent jamais descendu le fleuve de Des Moines. Les bateaux policiers furent supprimés et ont mis à notre bord le colonel Speed. Avec cet officier de valeur, nous eûmes l'honneur d'arriver premier à Keokuk, sur le Mississippi. Général Kelly et colonel Speed, je veux, sans plus tarder, vous rendre hommage. Vous étiez des héros tous les deux, vous étiez des hommes, et je fais amende honorable pour au moins 10% des ennuis que vous a causé le bateau de tête de la compagnie M. À Keokuk, toute la flotte fut amarrée, bateau contre bateau, pour former un immense radeau. Poussés par une bonne brise pendant une journée entière, nous fûmes pris en remorque par un vapeur le long du Mississippi, jusqu'à Quincy, dans l'Illinois, où nous campâmes sur l'île de Loie, au milieu du fleuve. L'idée du radeau fut abandonnée et les bateaux réunis par groupes de 4 et pontés. Quelqu'un m'ayant appris que Quincy était proportionnellement la ville la plus riche des États-Unis, je fus aussitôt pris d'une envie irrésistible d'y aller mendier. Un vrai professionnel ne pouvait réellement passer dans une localité si prometteuse sans s'y arrêter. Je traversai le fleuve pour me rendre en ville dans un tout petit canot. Mais en revenant, je montai dans une grande embarcation avec le produit de ma mendicité dont le poids faisait enfoncer le bateau jusqu'au plat-bord. Bien entendu, je gardai tout l'argent pour moi après avoir payé le passeur. Je fis un choix de caleçons, de chaussettes, d'habits et chemises usagées, de vestes et de grimpants. Puis lorsque la compagnie M eut raflé tout ce qu'elle voulait, il restait encore un paquet respectable que nous offrîmes à la compagnie L. Hélas, j'étais jeune et prodigue à cette époque. Je racontais 1000 histoires aux braves gens de Quincy, et chacune d'elles était excellente. Depuis que j'écris dans les revues, j'ai souvent regretté la richesse des contes, la fécondité de mon imagination que je galvaudais ce jour-là à Quincy, en Illinois. Ce fut à Hannibal, dans le Missouri, que les 10 invincibles se séparèrent. La dislocation se fit tout naturellement. Le chaudronnier et moi nous filâmes à l'anglaise. Le même jour, l'Écossais et Davy prirent la fuite pour l'Illinois. McAvoy et le poisson réussirent également à s'évader. Voilà pour les 10 premiers. Qu'advint-il des 4 autres de la compagnie M? Ça, je n'en ai jamais rien su. Pour vous donner un échantillon de notre genre de vie sur le rail, j'extrais la citation suivante de mon journal durant les journées qui suivirent ma désertion de l'armée de Kelly. Vendredi 25 mai. Le chaudronnier et moi nous quittons le camp dans l'île. Nous gagnons la terre sur la rive de l'Illinois dans un canot et après 10 kilomètres de marche, nous atteignons Hull sur le Wabash. Là, nous faisons la rencontre de McAvoy, du Poisson, de l'Écossais et de Davy, qui avaient également abandonné l'armée. Samedi 26 mai. À 2h du matin, nous attrapons le rapide de Cannonball, à l'endroit où il ralentit au passage à niveau. Scott et Davy sont débarqués. Nous quatre, nous sommes jetés au fossé sur les falaises, à 60 km de là. L'après-midi, le Poisson et McAvoy sautent sur un train de marchandises pendant que le chaudronnier et moi, nous parcourions la ville en quête de quelque chose à nous mettre sous la dent. Dimanche 27 mai. À 3h21 du matin, nous rattrapons le train de Cannonball, où nous trouvons Scotty et Davy sur le wagon postal. Au petit jour, nous sommes délogés à Jacksonville. Le C et A passent là. Nous allons le prendre. Nous ne revoyons plus le chaudronnier. Sans doute a-t-il réussi à monter sur un train de marchandises. Lundi 28 mai. Pas de nouvelles du chaudronnier. Scotty et Davy, partis pour dormir dans un coin, ne sont pas revenus à temps pour prendre le train de passagers de 3h30 du matin. J'arrive à Mason City, 25 000 habitants, après le lever du soleil. Le soir, je monte sur un train à bestiaux et je voyage toute la nuit. Mardi 29 mai. Arrivé à Chicago, à 7 heures du matin. Longtemps après, pendant un séjour en Chine, j'appris avec chagrin que le stratagème employé par nous sur les rapides du fleuve des Moines, le système 1-2-1-2 bateau de tête, bateau de queue, n'était pas nouveau. Les bateliers chinois s'en servent, paraît-il, depuis des milliers d'années pour naviguer sur les cours d'eau dangereux. Tout de même. Voilà quand même une belle invention, hein, même si la gloire ne nous en revient pas. Elle répond parfaitement à ce critérium de vérité du docteur Jordan. Cela fonctionne-t-il? Y confieriez-vous votre vie?